Grand Angle sur Radio Orient.
C'est le grand angle de ce mardi. La situation en Turquie après l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu, maire d'Istanbul, principal rival politique de Recep Tayyip Erdogan. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe s'est inquiété d'un retour disproportionné à la force par la police lors des manifestations contre l'incarcération du maire d'opposition. L'interdiction de rassemblement en vigueur à Ankara a été prolongée jusqu'à mardi prochain. Les autorités turques, confrontées à des manifestations inédites depuis plus d'une décennie, avaient décrété des interdictions similaires à Istanbul et Izmir. Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie et Moyen-Orient, à l'IFRI, estime que le président turc mise aujourd'hui sur le pourrissement du mouvement.
Je pense que Tayyip Erdogan, le président turc, joue le pourrissement du mouvement. Il espère que les manifestations vont s'épuiser d'elles-mêmes. Le mouvement est un mouvement important, mais ce n'est pas encore le mouvement de masse qu'on a connu au moment du grand soulèvement de Gezi en 2013. Donc je crois que malgré tout... Les autorités espèrent qu'en servant d'une part un discours sur la justice qui doit passer, en se concentrant sur les accusations de corruption qui sont beaucoup plus audibles pour une partie de la population, et en voyant que la mobilisation a quand même des limites, je crois qu'ils espèrent la fin du mouvement naturel, je dirais.
Les limites de cette mobilisation, elles ne sont pas dues uniquement à la peur de la répression, c'est ce que vous nous dites ?
Elles sont en partie dues à la peur de la répression, mais c'est aussi du découragement. Je pense que là... Aller manifester et passer au-delà des manifestations actuelles, c'est prendre le risque quand même de la confrontation avec l'État, effectivement, comme vous le dites. Donc on entre dans une espèce de phase inconnue. Il y a quand même environ 1200 personnes qui ont été arrêtées. Il y a 10 journalistes en garde à vue, beaucoup de réseaux sociaux qui ont été bloqués. Donc effectivement, d'emblée, les citoyens sentent que s'ils sortent, ça risque de passer à la confrontation complète. Et là, l'autre chose qui m'intéresse dans ce mouvement, c'est que il se concentre sur des mots d'ordre démocratiques. Donc aujourd'hui, on est sur un mot d'ordre qui est peut-être un peu plus abstrait qu'au moment de Gezi, où très rapidement, c'est la personne de Tayyip Erdogan elle-même qui avait concentré les critiques. Et là, il y a paradoxalement la conscience d'un enjeu beaucoup plus grave, d'un enjeu de défense démocratique et puis quand même ce découragement.
Est-ce qu'il est un adversaire sérieux, Ekrem İmamoğlu ?
Oui, bien sûr, il est un adversaire très sérieux. Vous avez vu les chiffres de la primaire organisée par son parti, le CHP, dimanche, où İmamoğlu devait être désigné candidat à la présidentielle pour le parti. Le CHP a ouvert la consultation à l'ensemble des Turcs et on a 15 millions de personnes qui se sont déplacées. C'est absolument énorme, c'est quelqu'un qui est très haut dans les sondages et effectivement il a un profil qui est parfait, il est jeune, il est populaire, il communique beaucoup, c'est un maire qui a un bon bilan à Istanbul et notamment qui a fait beaucoup de social. C'est un maire qui ressemble en réalité à Tayyip Erdogan pour un certain nombre de gens dans sa façon d'aller au contact et d'avoir le souci du social, de l'image, tout en étant d'être un moderne, tout en étant musulman pratiquant, donc d'incarner un peu, je dirais, la Turquie que Tayyip Erdogan a mis en place, finalement, d'une certaine façon. C'est un peu l'enfant de la Turquie de l'AKP, İmamoğlu.
Et il répond aujourd'hui, c'est ce que vous dites, aux aspirations du peuple turc.
Oui, il répond en tout cas à la façon dont la société turque se voit sous son meilleur jour. Donc moderne, efficace, mais néanmoins avec des valeurs.
Est-ce que Recep Tayyip Erdogan est en mesure de l'empêcher de se présenter à cette présidentielle ?
Il y a déjà le précédent d'un leader politique, et c'est Selahattin Demirtas, le patron du parti pro-kurde ADP, qui a été mis en prison en 2016, alors qu'il, lui, s'est quand même présenté à la présidentielle. Donc il faut que, depuis sa prison, hein, donc il faudrait pour que la manipulation là, qui concerne İmamoğlu fonctionne, qu'une peine d'inéligibilité soit prononcée. Et Erdogan le sait bien, puisque lui-même, quand il était maire d'Istanbul, il a été arrêté, il a passé 8 mois en prison, et il a eu une peine d'inéligibilité qui l'a empêché de faire la politique pendant un certain moment. Donc là, pour le moment, on va attendre de savoir quel sera le timing du procès, à quel moment il aura lieu. Les charges retenues sont donc ces charges de corruption. On va certainement avoir des informations qui vont être distillées au compte-goutte par le pouvoir sur ce sujet. Et puis Erdogan compte sur les divisions du parti d'İmamoğlu aussi, qui est un parti où il y a un peu des chocs d'égo. Et il y a d'autres candidats qui sont en embuscade et il espère qu'on l'oubliera, je pense.
Et c'est intéressant hein, ce que vous faites, ce parallélisme entre ces deux profils, Ekrem İmamoğlu et Recep Tayyip Erdogan.
Oui, absolument. C'est un parallèle que beaucoup de gens font et qui disent que, d'une certaine façon, Erdogan a perçu dans İmamoğlu son double politique, même s'il s'agit d'un parti différent, avec un programme légèrement différent, malgré tout, du point de vue du talent et du positionnement et de la perception par les citoyens, par les électeurs, il y a des similitudes.
Quelles conséquences cette arrestation, ces manifestations, l'interdiction des rassemblements, cette répression peut-elle avoir sur les liens entre la Turquie et l'Union européenne ?
C'est très compliqué pour les Européens de réagir parce qu'ils ont très peu de leviers, voire pas du tout. Ils étaient plutôt dans une période de rapprochement avec la Turquie parce qu'on a à la fois toujours cette question de lancinante de la migration en arrière-plan avec un éventuel relocalisation des migrants syriens en Syrie même, mais qui est complètement en suspens du fait de l'instabilité actuelle de la Syrie. Et puis surtout, la grande question de la sécurité européenne. Et le débat sur l'émergence d'une sécurité européenne, il s'est pas mal focalisé ces dernières semaines sur le rôle possible de la Turquie. La Turquie étant un membre de l'OTAN qui a beaucoup pris d'importance ces dernières années du fait des hauts et des bas de la politique américaine. La Turquie, elle serait l'acteur naturel finalement au Moyen-Orient. Elle pourrait être le défenseur de l'Union européenne au Moyen-Orient, mais aussi en mer Noire depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et la difficulté qu'on a là, c'est qu'en réalité, Erdogan reste aussi bien proche de Vladimir Poutine que de Vladimir Zelensky et qu'on ne sait pas très bien quels arrangements il va avoir avec la Russie après cette paix organisée par l'équipe américaine.
Il cherche également à rester proche tout de même de l'Union européenne. Ça, c'est un élément important.
Oui, en tout cas, je ne sais pas s'il reste vraiment à rester proche de l'Union européenne, mais il est très clair que depuis 2 ans, il a à nouveau un discours un peu plus offensif dans l'idée du rapprochement avec l'Union européenne. Alors, il y a d'abord une raison assez simple, c'est qu'on commémore cette année les 20 ans de la procédure d'adhésion, du début de la procédure d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Donc, évidemment, ça a remis sur l'agenda la question de l'adhésion, dont on sait qu'elle n'aboutit pas, mais personne, aucun des deux côtés n'a pris la peine de vraiment porter le débat au point de décider si on arrêtait ou pas cette procédure. On a sur l'agenda la mise à jour de l'union douanière, donc ça c'est un sujet sur lequel les Turcs se battent depuis un certain temps, la modernisation de l'union douanière avec l'Union européenne, qui a une importance dans la mesure où on est en ce moment dans une période de crise économique et où la Turquie, son économie dépend à peu près aux 2/3 de l'Union européenne, aussi bien pour les échanges que pour les financements. Mais aujourd'hui, on a cette question aussi de la défense. Et Erdogan est très conscient d'être en position de force, en réalité, quand il parle avec les Européens, au vu des recompositions géopolitiques régionales qui les inquiètent beaucoup.
Vous évoquiez la situation économique en Turquie. Elle a été marquée hein, ces derniers temps par une inflation particulièrement importante. Quelles sont aujourd'hui les attentes sociales de la population turque ?
Les Turcs ont perdu beaucoup de pouvoir d'achat, mais les inégalités aussi se sont beaucoup creusées. Donc on n'a pas seulement une question de moyenne, on a quand même le sentiment qu'il y a une partie de la population qui s'est beaucoup enrichie. Et là, finalement, l'enjeu pour Erdogan, c'est de montrer que les corrompus sont du côté de l'opposition, alors que son entourage est soupçonné de beaucoup profiter du pouvoir politique pour s'enrichir également. Et donc, en réalité, ça, c'est vraiment un enjeu d'image qui est extrêmement fort et qui pèse sur l'élection. Vous savez que aux dernières élections en Turquie, aux municipales de l'année dernière, l'opposition a fait des très bons scores et on sait que c'est en grande partie à cause de cette glissade économique progressive, qui n'est pas forcément très étonnante en soi, parce que la Turquie a connu un chemin de rattrapage très très fort et que aujourd'hui on arrive aux limites de ce rattrapage et d'un modèle de croissance qui n'a pas été tellement pensé par l'AKP, qui finalement est un modèle d'émergence assez classique.
Ce qui se déroule aujourd'hui en Turquie, cela peut avoir un impact sur l'image du président turc, et quel impact cela peut avoir justement au sein de la société ?
L'impact, il est de deux sortes. Je pense que Tayyip Erdogan a envie d'apparaître comme l'homme fort absolu, celui qui est vraiment le maître du pays, sans aucun mécanisme de rappel, et considère que ça, c'est quelque chose qui est positif pour ses supporters, donc pour une partie de la population. L'idée d'avoir un homme fort au pouvoir dans une période qui est très trouble géopolitiquement et économiquement. Mais pour ceux qui sont d'abord ses vrais opposants déclarés, et aussi toute une partie des Turcs qui sont assez indécis, ce qui se joue aujourd'hui, c'est la marche forcée vers une autocratie complète, eh bien, un système quasiment totalitaire. Et ça, c'est quelque chose qui dérange aujourd'hui plus de la moitié de la population en Turquie.
Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie et Moyen-Orient à l'EFRI. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cet épisode de Grand Angle.
C'était Grand Angle sur Radio Orient.